Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
Vous vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Un jour, dans cette émission, nous recevions un jeune et brillant grand reporter. Il avait filmé la Syrie et bien d'autres atrocités. L'interview s'est avérée difficile, très difficile même. À 9h30 du matin, mon interlocuteur était ivre mort. Ce jour-là, j'ai compris qu'on ne revient pas indemne des théâtres de guerre, qu'on en rapporte sans doute une part d'horreur qui silencieusement ronge ou continue de ronger certains de mes confrères. La semaine dernière, j'ai lu un article passionnant dans Télérama, signé Luc Desbenois. Y était raconté le tabou que les symptômes de stress post-traumatique constituent chez les journalistes et la façon dont l'AFP a décidé de prendre le problème en main, médecine du travail à l'appui.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Voilà, et cette émission, elle est réalisée par François Audouin, préparée par Anne-Cécile Perrin et Redouane Tella. À la technique ce matin, c'est Guillaume Roux. Toute l'équipe de l'Instant M est heureuse de traiter ce sujet qui fait déjà beaucoup réagir en interne à Radio France, mais également sur les réseaux sociaux depuis qu'on vous a annoncé. Docteur Olivia X, bonjour.
Bonjour.
Voilà, médecin du travail, c'est rare hein, dans cette émission qu'on reçoive un médecin du travail. Médecin du travail à l'AFP, l'agence France Presse, 1500 journalistes, 3000 photos éditées par jour, puisque nous allons parler notamment des dégâts que peuvent provoquer la fabrique de l'image, mais pas seulement, hein, c'est toute l'information en général quand on est confronté à des choses très difficiles et très angoissantes. Et puis on vous fait parler, vous, médecin du travail à l'agence France Presse, mais depuis ce matin, on nous alerte aussi sur la situation des journalistes freelance qui n'ont pas la chance de travailler dans des structures où ils peuvent être épaulés, entendus, ou tout simplement pas la chance de pouvoir poser un arrêt maladie. On va parler de tout cela avec vous. Chaque vendredi, à mes côtés, Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Et sa nouvelle chronique, c'était pas sa semaine, ce sera juste après la délicieuse Madeleine du vendredi. Vous le savez, une devinette, un cadeau, pour cela nous attendons votre mail à cette adresse, l'instantm@radiofrance.com. Nous partons en 1965, il n'y a alors qu'une seule chaîne de télévision, la France s'arrête pour regarder Belphégor. Bah oui, bien sûr, Belphégor. Qui était le réalisateur de ce feuilleton ?
J'avais plusieurs autres sorties de prévues et je les ai annulées.
Et ça surpasse tous les autres feuilletons que j'ai eu jusqu'à présent.
Pour le troisième épisode, j'étais à une soirée. Alors naturellement, dès le lendemain, j'ai téléphoné à des amis parce que je voulais absolument savoir ce qui s'était passé.
C'est un feuilleton, mais réellement qui tient debout, vous comprenez ?
On ne connaissait pas Belphégor, on n'a connu qu'à la fin.
Ce qui m'a plu vraiment énormément, c'est que tout était équilibré. Tout ça, c'est une des rares émissions depuis quelques temps qui est vraiment très bonne.
Qui a réalisé Belphégor, diffusé par l'ORTF en 1965, l'Instant M, @radiofrance.com. Alors, Bruno Donnet, tous les vendredis, vous pointez un personnage qui a passé un moment difficile parce qu'il a été très malmené à la télé au cours de la semaine. Et ce matin, vous nous dites que ce n'était pas vraiment la semaine de... La maquilleuse du journal télévisé.
Oui, c'était pas sa semaine parce que jusqu'à des temps relativement récents, maquilleuse au JT, c'était un travail assez peinard qui consistait à s'occuper d'une seule et unique personne, le présentateur du journal. Donc, en gros, PPDA, David Pujadas, Gilles Boulot ou Anne-Sophie Lapix se pointaient vers 19h50 et à 20h, hop, la maquilleuse pouvait remballer ses pinceaux. Elle avait terminé sa journée. Seulement voilà, depuis la rentrée, fini la planque, la maquilleuse du JT a désormais un boulot de dingue. Car figurez-vous que les grands chefs à plumes de la télé ont décidé de recourir beaucoup plus massivement qu'avant à un artifice qui permet de donner du rythme et l'illusion de la richesse à leur journal, faire venir physiquement sur le plateau, les uns après les autres, une ribambelle de journalistes afin qu'ils nous donnent des explications. Auparavant, toutes les infos étaient livrées dans les reportages. Eh bien maintenant, c'est fini. Après les sujets, on a droit à un éclairage supplémentaire. Alors, lundi, par exemple, la maquilleuse du 20h de TF1 a ainsi dû ripolliner, en plus de celui de Gilles Boulot, le visage d'un certain Julien.
Bonsoir Julien Roux.
Bonsoir Gilles.
Grand connaisseur de rentrée scolaire, mais elle a également dû effacer les cernes de Jean-Marie.
Bonsoir Jean-Marie Bagayoko.
Bonsoir.
qui était venue nous dire combien coûte le nouveau maillot de foot des Bleus. Puis elle s'est tapée de repoudrer le nez de ce cher Christophe.
Bonsoir mon cher Christophe Jacubizine.
Bonsoir Gilles.
Le spécialiste S politique de la chaîne et pas de la Chine. Et comme c'était vraiment pas sa semaine, à la maquilleuse du JT, devinez un peu ce que Gilles Boulot a promis à Christophe, sitôt son intervention terminée.
Nous vous réinviterons demain soir sur ce plateau.
Hein. Avec plaisir.
Voilà, et pendant ce temps-là, sur la chaîne d'en face, eh bien le sort de la maquilleuse du 20h de France 2 n'était guère plus enviable, puisqu'en plus d'Anne-Sophie Lapix, elle a dû également peinturlurer le spécialiste de la consommation des ménages.
Merci Jean-Paul.
Celui de la politique étrangère.
Merci Étienne.
Et celle de l'économie.
Merci Alexandra.
Voilà, alors si je suis venu ici ce matin, chère Sonia, vous dire que c'était vraiment pas la semaine de la maquilleuse du JT, c'est pas seulement pour alerter sur le fait qu'elle est désormais soumise à des cadences infernales. C'est aussi pour vous faire remarquer qu'en plus d'avoir 5 fois plus de taf qu'auparavant, eh bien elle ne maquille pas toujours les bonnes personnes. Pourquoi ? Eh bien parce que ceux qui sont responsables du contenu des JT sont absolument convaincus que les sujets majeurs sont forcément des sujets politiques, économiques ou des sujets qui concernent la consommation. Bah, c'est la raison pour laquelle les journalistes qui sont dépêchés en plateau sont systématiquement des experts de ces questions-là et que la culture ou l'environnement sont non seulement très largement sous-traités, mais jamais, absolument jamais, incarné. Cette semaine, par exemple, le grand sujet d'actualité aura été le remplacement de Nicolas Hulot au ministère de l'Environnement. Eh bien, savez-vous à qui ce dossier a été confié ?
Bonsoir Nathalie Saint-Cric.
Aux journalistes politiques et à eux seuls. Et pourtant, on aurait parfaitement pu choisir un traitement environnemental à ce sujet, proposer un éclairage sur les chantiers urgentissimes à réaliser pour sauver la planète. Mais non, tout a été anglé sous l'unique prisme de la crise politique, comme si la crise écologique ne méritait pas d'avoir, elle aussi, des experts et des visages. Bref, vous l'aurez compris Sonia, la maquilleuse du JT a eu une rude semaine, et devant l'inflation galopante de bobines en plateau qui, non contente de n'offrir strictement aucune plus-value, ne sont pas toujours bien choisies, eh bien elle a proposé, comme Anne-Sophie Lapix, que l'on opte pour une solution totalement radicale à l'égard de tous ces journalistes dont on nous inflige une présence uniquement cosmétique.
On leur rentre dedans et on les bute.
Non, bonne journée.
Merci Bruno. C'était pas sa semaine donc à la maquilleuse du 20h et c'est à réécouter ou à podcaster sur franceinter.fr. Nous avons un gagnant ce matin, il s'appelle Daniel. Il a reconnu le Belphégor qui était signé Claude Barma 1965 l'ORTF et je lui offre la Cerisée Anton Tchekhov, une très très belle captation que Lina a rééditée en DVD.
L'instant M. C'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, mon invitée s'appelle Olivia X, elle est médecin du travail à l'agence France Presse. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage d'une consoeur, elle s'appelle Miye Koiyama. Elle est française, elle a des origines japonaises, elle a 45 ans, elle a été journaliste un peu partout en France. Ce sont les 9 jours de couverture du tsunami au Japon en mars 2011 qui vont tout changer pour elle. Elle le raconte sur un blog qui est accessible à tous, ça s'appelle le Making of de l'AFP.
Au moment où je suis envoyée, donc je pars le samedi, explosent les uns après les autres les réacteurs de la centrale de Fukushima. Donc la première explosion le dimanche, après successivement du lundi au mercredi. Donc ce reportage, il y a lieu dans des conditions d'angoisse très fortes. Et le premier reportage qu'on fait, c'est d'aller interroger des pompiers qui viennent de charrier des corps toute la journée dans un centre de secours. Et ce reportage est complètement surréaliste parce qu'en fait, les pompiers, au lieu de nous parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils font, ils nous parlent juste de leur angoisse du nucléaire. Et d'un coup, il y a ce haut-parleur qui résonne, qui répète en boucle quelque chose en japonais que je saisis pas très bien. Et à ce moment-là, j'ai une crise de panique totale parce que je me dis, ça y est, ils sont en train de nous dire qu'il faut évacuer le Japon et moi, je comprends rien.
Docteur X, on a beaucoup, beaucoup de questions à vous poser avant de parler des manifestations, des traitements possibles de ces états de stress post-traumatique. Simplement, à quoi sont dus ces troubles ? À un choc très important auquel aurait été confronté le sujet ?
Le stress post-traumatique arrive après la confrontation à la mort, en général. Mm-hmm. C'est-à-dire soit la confrontation au risque de sa propre mort, comme mm-hmm. dans l'exemple que vous venez de citer, où au moment où elle entend les haut-parleurs, elle pense qu'elle va mourir, il y a la radioactivité partout. Mm-hmm. Donc c'est l'idée qu'on va mourir soi, ou qu'on va avoir une atteinte de son intégrité physique, comme par exemple lors des violences sexuelles. Et puis ça peut aussi être l'exposition à la mort, mais de d'autres personnes qu'on va voir mortes, voir des cadavres. Et ça peut être aussi le fait de recueillir les témoignages de choses, de personnes qui ont vécu des horreurs. C'est pas, c'est donc le cas fréquent pour les journalistes. C'est pour ça qu'ils sont aussi exposés.
Exposés à ces symptômes. On va écouter un deuxième témoignage, celui de Patrick Bass, qui est photographe, basé à Beyrouth, âgé de 54 ans. Il a à peu près tout couvert hein, pendant 30 ans, des horreurs et des conflits de cette planète. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, ça a été un shoot. La guerre a été un shoot pour lui pendant toutes ces années. Bref, c'est un journaliste extrêmement capé. Un jour, il doit partir à Gaza. Sa valise est restée ouverte dans le salon. Il n'a pas pu bouger du canapé. Il parle d'une accumulation, d'une sorte de millefeuille. Mais lui aussi, il identifie un événement déclencheur.
C'était en 2012 en Libye, où j'étais avec deux collègues dans une voiture. Et on a bêtement suivi un assaut. Sur une position des forces gouvernementales libyennes. Et c'était stupide de ma part. Et donc, parce qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'on était avec des... ce que j'appelais à l'époque des... les rebelles libyens étaient un mélange de Mad Max et de sans-culottes. C'était désorganisé. Et je crois que c'est avec la fatigue, en fait, qu'on n'a pas beaucoup réfléchi. On a suivi bêtement. Et là, c'était la boucherie. Les voitures giclaient devant nous. Les rebelles tombaient de leurs camions, les morts étaient des corps giclés, etc.
Docteur Olivia X, comment se manifeste le stress post-traumatique et quand est-ce qu'il se manifeste ?
Alors, il y a d'abord souvent un stress qu'on va appeler aigu, c'est-à-dire juste après l'événement traumatique, on va avoir un certain nombre de réactions qui sont finalement presque des réactions normales à un événement anormal quand on vient de vivre quelque chose d'atroce, d'horrible. Et donc, ces réactions qui vont être des cauchemars, des angoisses, des reviviscences, c'est-à-dire une reviviscence, ça veut dire revivre l'événement traumatique avec tous les symptômes qu'on aura eu au moment de l'événement traumatique, tous les symptômes physiques de transpiration, de tachycardie. On est en train de revivre le moment. C'est ça la reviviscence. On va avoir donc des peurs, des évitements. Tout ça, c'est ce qui peut arriver juste après. En général, ça s'estompe. Et c'est lorsque ça dure plus d'un mois qu'on va appeler ça un stress post-traumatique.
Parce que les deux sujets qu'on vient d'entendre ne racontent pas exactement ça. Eux, ils racontent plutôt des périodes d'abattement, de dégoût, d'indifférence vis-à-vis des autres, des moments où on ne bouge plus, où on s'enferme, où on boit beaucoup. Il faut avoir le courage de raconter ce rapport à l'alcool aussi.
Tout à fait. Il y a une personne sur deux à peu près qui a un stress post-traumatique qui va avoir recours à l'alcool ou aux drogues pour pouvoir supporter tous ces symptômes très difficiles. Donc les symptômes sont complexes, sont multiples, c'est pas toujours évident de faire le diagnostic, c'est-à-dire que certes les plus symptomatiques, ça va être les cauchemars, l'hypervigilance aussi, le fait d'être sur le qui-vive en permanence, de sursauter dès qu'il y a un petit bruit. Ça va être l'évitement des situations qui vont rappeler la scène ou l'évitement des situations qui vont nous mettre en situation de stress. Et puis, ça va être ces parasitages avec ces images et ces reviviscences. Ça, c'est les choses typiques. Mais ce qui va souvent accompagner, c'est des crises d'angoisse, de l'anxiété, voire au bout d'un certain temps, de la dépression. Et ce qui est caractéristique du stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que le cerveau, pour se protéger, va se dissocier et on va être un peu étranger à nous-mêmes, on va se voir fonctionner, on va avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vit ce qu'on vit et on va être très détaché émotionnellement.
Donc... Alors justement, on vient d'entendre deux journalistes qui fabriquent des images, l'une qui est GRI, donc qui tourne avec une caméra, et l'autre qui est photoreporter. Est-ce que ceux qui fabriquent ces images, qui les conçoivent, sont plus exposés que le reste de la profession?
Alors, ils sont souvent très très près de l'événement. Ils sont souvent, pour pouvoir faire une photo, pour pouvoir filmer, ils sont souvent obligés d'être vraiment sur l'événement. Donc, ils sont un peu plus exposés aux événements traumatiques. Mais surtout, ils sont cette caractéristique, c'est qu'ils ils ont souvent l'impression qu'ils sont protégés par l'objet, la caméra ou l'appareil
qui ferait un petit rempart,
et que du coup ça va pas les atteindre vraiment, alors que au contraire l'image va venir s'imprégner dans le cerveau et ils vont pas avoir ce que va avoir le journaliste texte. Va avoir un moment où il va réfléchir, élaborer psychiquement ce qu'il vient de voir pour pouvoir l'écrire, et cette élaboration psychique, elle permet de mettre un tout petit peu plus à distance. Donc c'est très important de parler de ce qu'on a vécu, de parler de ce qu'on a vu, et pas de penser que la photo est dans la boîte, on l'envoie et c'est fini, on passe à autre chose.
Alors, et l'un et l'autre disent de leur difficulté de mettre des mots, d'en parler autour d'eux, même à des confrères, même au sein de l'agence France Presse. D'abord, il y a les femmes qui veulent masquer une fragilité présupposée des journalistes féminines sur le terrain. Et même un Patrick Baze dit « Je me suis tellement moqué d'un grand reporter qui s'appelle Jean-Paul Marie, qui avait écrit ce livre sur les blessures invisibles, et aujourd'hui je m'en veux parce que j'ai vécu la même chose. »
Oui, ça a vraiment été pendant très longtemps, et ça reste encore quand même un sujet tabou. C'est tabou parce que dire qu'on a du mal, dire qu'on souffre, dire qu'on est angoissé, dire que ce qu'on a fait lorsqu'on a fait notre travail nous a rendu angoissés, nous a rendu malades, c'est franchir un cap que pour beaucoup va être très difficile. Alors ça va être aussi difficile, vous en avez parlé tout à l'heure, pour les journalistes pigistes, les journalistes qui n'ont pas la sécurité de l'emploi, qui n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Patrick a la chance d'avoir pu faire autre chose, arrêter de photographier la guerre.
C'est extrêmement émouvant ce qu'il raconte, parce que lui, il a suivi donc une longue thérapie pour s'en sortir, et lui, il dit « J'ai dû tuer mon personnage, ce personnage qui cherchait ce shoot et cette drogue de la guerre, et aujourd'hui, je n'ai plus envie de photographier la mort, j'ai envie de photographier la vie et le beau. »
La vie et le beau.
C'est extrêmement émouvant. Et d'ailleurs, sa consœur, elle aussi, a envie de revenir sur le terrain. Autre chose très, très importante dans votre démarche à l'AFP, vous avez pris conscience qu'on peut souffrir de ces stress sans avoir quitté son bureau, sans même parfois avoir quitté le siège à Paris.
Tout à fait, notamment les plus exposés, c'est les éditeurs photos qui vont toute la journée avoir sur leur écran des photos potentiellement atroces et avec l'impression qu'ils sont dans un bureau, protégés et qu'ils risquent rien. Et pourtant, cette accumulation d'images terribles, d'images de mort, d'images de catastrophe, va finir par avoir souvent un effet délétère et va générer des symptômes qu'ils vont pas toujours tout de suite repérer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, par exemple, des crises d'angoisse, des impressions qu'ils vont mourir, d'avoir à penser que c'est un problème cardiaque.
Sauf que eux n'ont pas vécu cet événement.
Ils n'ont pas vécu directement, voilà. Mais ils ont été exposés toute la journée, et aujourd'hui la psychiatrie reconnaît le stress post-traumatique lié à l'exposition professionnelle à des images dans le cadre de son travail. C'est assez nouveau.
Est-ce que, docteur, dans les protocoles et les processus que vous mettez en place justement pour pouvoir détecter ces stress, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les soigner, est-ce que vous êtes en relation avec d'autres médias ou avec d'autres agences de presse?
Tout à fait. Depuis que je suis à l'AFP, je travaille régulièrement avec le médecin du travail de France Média Monde.
Oui.
Et on travaille ensemble sur ces questions-là. Et récemment, l'inspection du travail m'a proposé qu'on organise un groupe de travail pour tous les médecins du travail des médias, pour que justement on puisse vraiment s'occuper de cette problématique-là qui n'est pas toujours
connue. Parce qu'il y a le tabou. Voilà, c'est ça. Il y a le tabou chez les journalistes. Et du coup, j'imagine qu'il y a un manque de préparation de vos confrères également.
C'est d'autant plus important que la prévention, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut faire de la prévention pour le stress post-traumatique. On peut expliquer des choses aux journalistes avant qu'ils partent sur des terrains dangereux ou des terrains à risque d'image d'événements traumatiques. On peut faire de la prévention, donc c'est d'autant plus important de s'occuper de ce problème-là et d'arrêter de faire comme si c'était pareil de partir voir un massacre ou de faire un reportage sur quelque chose de joyeux.
Merci beaucoup, docteur Olivia X. Merci d'être venu nous raconter cela dans une émission consacrée à l'actualité des médias. C'est un sujet passionnant. Je renvoie tous les auditeurs vers le making-of de l'AFP, donc c'est sur le site de l'agence France Presse. Il y a toutes sortes de récits passionnants, et vous vous êtes servi de ce blog justement pour faire parler vos patients et pour qu'ils puissent partager leurs expériences.
C'était vraiment le but de ces témoignages, c'était de sensibiliser les journalistes pour qu'ils prennent conscience de leurs risques, parce que ce que j'ai pas eu le temps de vous dire, c'est que souvent, c'est pas tout de suite qu'on va avoir ces problèmes, ça peut parfois être plusieurs années après qu'on va décompenser à force de répéter ces différents événements traumatiques.
Merci beaucoup, voilà, et puis le festival Visa pour l'image, et bien la mec du photo journaliste, tourisme, elle bat son plein à Perpignan. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Alors, l'école a-t-elle pour seule mission d'instruire et de transmettre des savoirs ou doit-elle également rendre meilleure d'un point de vue éthique et moral? Émission avec le mensuel Philosophie Magazine. On attend toutes vos questions au 01 45 24 7000.